Mais d'abord, les agressions sexuelles dans les avions, c'est en croissance selon le New York Times. Et pour discuter un petit peu de ça, on va aller rejoindre Jean Lapointe, qui est pilote et expert en aviation. Bonjour, Jean.
Bonjour, Bernard.
Jean, on s'est tourné vers toi parce que j'avais le goût de te demander, toi, là, comme pilote d'avion depuis plus de 30 ans, c'est bien ça?
Alors, plus de 40.
Bon. Est-ce que tu as eu à gérer des cas d'agression sexuelle sur des vols que tu pilotais?
Non. Je dois dire qu'au niveau des agressions sexuelles, Bernard, c'est au risque zéro. Je n'ai pas eu à rien gérer là-dessus. Par contre, des gestes sexuels où il y avait consensus là, entre quelques personnes, oui, tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bon, ça veut dire que c'est des gens qui veulent rejoindre le Mile High Club. Donc, ils vont tenter d'avoir des relations sexuelles à bord de la cabine, soit dans les toilettes ou la nuit sous le couvert de couvertes, et donc de déranger des gens là, qui sont à proximité. Alors, pour ce qui est des agressions sexuelles, non.
Okay.
Des gestes sexuels, oui. Et plein d'autres panoplies, des gestes là, où il y a eu vraiment des batailles à coups de poing entre deux couples et bien d'autres petites choses là, qui peuvent être dérangeantes. Mais si, sans avoir lu l'article ce matin du New York Times, c'est évident qu'au niveau statistique, là, lorsqu'on parle du fait qu'aujourd'hui, on transporte environ 4 milliards de passagers puis que ça sera 6,4 en 2030, c'est sûr qu'on a un risque d'augmentation, peut-être pas en pourcentage, mais il faut apprendre à bien réagir lorsqu'on est devant de telles agressions là,
restons,
au niveau des équipages.
Restons, j'ai le goût de vous poser des questions encore sur les couples qui décident de s'envoyer en l'air. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Mais on va rester sur les agressions parce que je veux savoir, moi, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là?
Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, Bernard. Dans l'hiérarchie de l'embarquement d'un passager qui pourrait justement être déjà turbulent au sol, il faut savoir que les agents passagers qui font monter les passagers dans l'avion là, à partir des passerelles d'embarquement, eux sont déjà entraînés à détecter si quelqu'un aura pris un peu trop de boisson ou est déjà dans une attitude un petit peu alternative. Puis après ça, la deuxième ligne de départ, c'est les agents de défense. Ce sont les agents de bord qui, eux aussi, sont entraînés à détecter des gens qui pourraient avoir un comportement déjà un petit peu dérangeant au sol, soit par des paroles, soit qu'ils sont déjà un petit peu en boisson. Puis, ce qui est important de savoir, Bernard, c'est que les règlements de l'air de plusieurs pays, dont celui du Canada, font du commandant de bord un officier de la paix du moment que la porte de l'avion est fermée et que l'avion est en mouvement là pour un décollage. Alors,
OK, fait que vous avez ni plus ni moins que les pouvoirs d'un policier, mettons.
Oui, exactement. Et ça, c'est important que les passagers le sachent parce que depuis le 11 septembre, je vous dirais que moi-même et plusieurs collègues, on avait beaucoup moins de patience, là, justement, parce qu'on sait que certaines stratégies qui pourraient être utilisées par des gens qui ont des comportements agressifs ou alternatifs, c'est souvent pour attirer l'attention des agents de bord pour avoir un accès plus facile là, vers la cabine des pilotes.
OK, fait que tu fais une scène. Mettons, oui. Tu fais une scène où tu simules une bagarre ou tu provoques un passager, donc tu fais une esclandre ou je sais pas quoi pour attirer l'attention. Pendant ce temps-là, ton complice, lui, prend le chemin vers la cabine pour essayer de prendre le contrôle de l'avion.
Oui, il faut aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les agents de bord sont entraînés de façon annuelle, justement, à savoir gérer ces situations-là, à les désarmer, en fait. Et pour nous, dans le monde de l'aviation, il y a 4 niveaux d'alerte lorsqu'on est confronté à des situations difficiles avec des passagers. Elles commencent, 1, en comme étant mineur, et 4, et là, 4, ça devient dangereux et on doit protéger la cabine de pilotage. Alors, les passagers doivent savoir que les gens avec qui ils travaillent ont plusieurs façons de le désamorcer. Bon, numéro 1, on va tenter de parler calmement avec le passager, puis on va espérer aussi qu'il y ait de la place dans l'appareil pour changer les gens d'endroit. Mm-hmm. Mais il faut aussi savoir que nos pauvres agents de bord, là, ils sont confrontés non pas seulement à des problèmes potentiels d'agression sexuelle, mais il y a des différences religieuses un peu partout sur la planète qui font que certaines personnes ne veulent pas s'asseoir à côté de femmes. Et déjà là, ça engendre des problèmes.
Ben,
alors, c'est important.
Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Mettons que toutes les autres places sont prises.
Ah là, ça devient des confrontations très difficiles. Écoutez, dans la dernière année de ma carrière à Montréal, avant même de refouler pour Paris, il y a eu des propos racistes qui ont été tenus entre deux passagers. L'agent de bord était là. L'agent de bord dit qu'elle n'est pas confortable d'avoir ce passager-là dans l'avion. Alors, le commandant reçoit ça. Qu'est-ce que fait le commandant dans ce temps-là? Ben, il faut savoir que les grandes sociétés aériennes ont de la sécurité à l'interne. Alors là, on sait le siège du passager, on envoie ça vers la sécurité interne, le nom du passager, son siège, a-t-il un historique ou pas? Et ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'était bien triste. On a été obligé de retourner à la passerelle et d'appeler la police. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, non pas seulement dans l'avion, mais lorsqu'on passe à la sécurité, on fait pas de blagues à savoir qu'on pourrait avoir une bombe
non.
avec nous ou quoi
non,
que ce soit.
Non.
Mais tout ça pour dire au public que c'est important d'agir de façon là. Et heureusement, c'est le cas de la grande majorité des passagers que de se comporter de façon adéquate.
Mais Jean Lapointe, mettons que mettons que le vol décolle, OK? T'es dans les airs. Et là, il y a un passager qui dit, moi, je ne suis pas à l'aise d'être assis à côté de cette femme. Je souhaiterais être assis à côté d'un homme. Et mettons qu'il n'y a pas d'autre siège de libre. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Ben, en fait, soit que ça fonctionne, soit qu'on soit capable de changer les passagers de siège. Et si ça fonctionne pas, ben la personne va devoir vivre avec ça, avec un avertissement du commandant que c'est préférable qu'il vive avec la situation actuelle. Si je peux vous faire rire, avant le 11 septembre 2001, où les pilotes se permettaient de sortir de leur cabine de pilotage, justement dans un cas difficile à régler, j'ai un ancien de mes collègues qui aurait pu jouer dans la Ligue nationale de hockey avant l'expansion, là, s'il y avait eu plus que 12 équipes. Le commandant est sorti, puis il est allé assommer le passager carrément. Ça, c'est probablement la chose la plus drôle que j'ai vue et entendue.
L'assommer, il a envoyé un coup de poing sur la gueule, là, c'est ça, là?
Oui, exactement. Mais aujourd'hui, là, après le 11 septembre, on n'a plus le droit de sortir de notre cabine, mais ça, c'est je vous donne le scénario extrême.
Mais à ce moment-là, comment vous transmettez aux passagers le message du commandant? Est-ce que c'est parce que vous signez un bout de papier puis l'agent de bord la porte ou est-ce que vous vous adressez aux passagers par la voie de l'intercom, par la voie des haut-parleurs? Comment vous faites ça?
Ben, en fait, oui, on pourrait toujours faire une annonce aux passagers qu'il y a un problème parce que souvent, les passagers vont se mettre à crier puis à déranger l'environnement. Et donc, on va même demander aux passagers de demeurer assis en allumant le signal des ceintures. Mais en général, ça se fait par le chef de cabine, la personne responsable de tous les agents de bord, soit de façon verbale ou soit que le commandant peut envoyer une petite note. Et ça arrive à l'occasion, je pense que c'est au mois d'octobre 2017, le 787, le Boeing 787 de Thomson Airways a atterri à Québec alors qu'il avait quitté Manchester en Angleterre vers Cancun et la passagère a été descendue sous escorte policière et a passé au palais de justice de Québec le lendemain et ça crée des problèmes et beaucoup de sociétés aériennes qui suite à ces événements-là vont poursuivre le passager pour les coûts engendrés pour le déroutement. Là.
Mais c'est clair. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit, Jean Lapointe, qui me dit « Vous pouvez même demander l'aide de passagers masculins si jamais aucun agent de bord n'est un homme. »
Oui, et dans l'avion, dans chaque appareil de ligne, il y a des menottes qui sont facilement passables aux passagers. Quand celui-ci est menotté dans un premier degré, il y en a d'autres menottes. Et je vous dirais que depuis le 11 septembre, il y a eu des comportements inadéquats où effectivement des pompiers puis des policiers puis des jeunes hommes assez bien
baraqués,
ils ont mis fin à ces problèmes-là justement et donc oui, ça peut arriver que des passagers soient demandés en aide si les agents de bord ne sont pas en mesure de maîtriser la ou les personnes.
Bon, parlez-nous du Mile High Club, là, ceux qui baisent en vol.
Oui.
Mettons
oui.
le cas le plus comique que vous avez eu à gérer ou à plutôt peut-être à constater, là, parce qu'une fois que c'est fait, mais j'imagine que parfois vous les surprenez en plein zébat et là, ils doivent s'arrêter. Je sais pas, moi, il y a du monde qui attend pour utiliser la toilette, puis là, t'es entends s'envoyer en l'air, là, je sais pas, là. Comment est-ce qu'on gère ça?
Comment est-ce qu'on gère ça? Bien, première des choses, les agents de bord sont toujours inquiets quand les gens sont à la toilette pour un bon bout de temps, là. Puis c'est une chose que les agents de bord remarquent. Alors, on va cogner à la porte, puis on va leur demander de sortir, puis c'est quand même assez surprenant de voir deux personnes sortir de la même toilette. Mais en général, les agents de bord ont tellement d'expérience avec le public qu'ils vont le gérer. Le pilote, évidemment, va en entendre parler, ça dépend toujours de votre équipe. Par la suite, puis il n'y aura pas de suite judiciaire là, par rapport à ça. Ça se passe surtout la nuit, Bernard.
Ça se passe
aussi dans les classes à faire et en première classe. Là. Puis des fois, les agents de bord ont des petits doutes, puis s'il n'y a pas trop de bruit, puis si tout le monde sommeille, on me dit qu'on peut laisser aller certaines choses.
Oh, ben ça, c'est bon! Ah, ben là, ça doit être en première classe, effectivement, où il y a un peu plus d'espace, là.
Oui, effectivement. Fait que, oui. Mais c'est, je vous dirais à votre question, votre question d'entrée, Bernard, c'est que ça n'arrive que très peu souvent. Ça risque d'augmenter avec l'augmentation des passagers. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes très proches collègues qui volait sur un DC-3, puis à un moment donné, le commandant a demandé à son épouse de venir avec lui. Puis c'était un vol cargo. Puis ils ont joint le My Hall Club pendant que mon collègue était tout seul dans la cabine du DC-3.
Oh!
Alors, ça aussi, ça pourrait faire.
Ça, je suis pas sûr que ça respecte la réglementation sur la sécurité aérienne.
Ah, ben disons que c'est un vol VFR entre Port-Meunier et quelque part sur la base Côte-Nord. Alors, si mes collègues m'entendent, vont peut-être avoir un petit sourire, mais il y a beaucoup de gens qui veulent rejoindre ce club, mais c'est peut-être de plus en plus difficile.
C'est, j'allais dire, beaucoup veulent, mais peu l'atteignent. C'est vraiment un club sélect.
Moi, je dirais que oui. Il n'y a pas de carte de membre, là, mais quand même. C'est un sujet dont il faut parler parce que c'est quand même important de se faire savoir aux voyageurs qu'il y a plusieurs stratégies là pour savoir si oui ou non on va devoir vous descendre de l'avion avant l'arrivée ou avant le départ. Et souvent, ce qui est souvent un des facteurs, ça va être l'alcool. Peu de gens savent que lorsqu'on est à 35 000 pieds en altitude, que la densité de l'air est l'équivalence d'à peu près 7-8 000 pieds. Donc, c'est comme si on était à Mexico. Donc, un verre d'alcool peut être l'équivalent de deux verres et demi. Alors, très rapidement, il y a des gens qui perdent la carte, là, justement, à cause de l'alcool.
Est-ce qu'en terminant, les agents de bord, est-ce qu'ils ont les moyens d'entrer dans une toilette?
Oui. Oui.
Ah oui?
Oui. Il y a une façon maintenant. C'était peut-être pas le cas sur les plus vieux appareils, mais aujourd'hui, oui, quelqu'un peut rentrer.
Fait que si vous voulez le faire, faites-les vite.
Oui, exactement. Bernard, c'est un sujet un peu plus intéressant que nos fameux 737 MAX. Il faudra en reparler parce que c'est reparti en fin de semaine avec Boeing qui a présenté partiellement une solution à sa problématique de contrôle de vol à différentes associations de pilotes américains. Alors là, il faudra voir si la confiance envers l'Agence fédérale américaine et Boeing sera au rendez-vous là dans les prochaines semaines.
OK, c'est intéressant, on va y revenir. Parce qu'ils ont présenté le nouveau système, le nouveau logiciel, hein, c'est bien ça, là, qui corrige le défaut, là, hein?
Effectivement, oui. Ouais, puis la qualité de l'entraînement, mais comme là, on en a eu deux, est-ce que ça prendra une tierce partie au niveau d'un régulateur pour donner l'aval à savoir si l'avion peut repartir hors des États-Unis? Ça reste à suivre parce que même aux États-Unis, il y a des anciens inspecteurs du Bureau de la sécurité des transports qui met en doute là l'intégrité de la FAA.
La fiabilité du nouveau système. Jean Lapointe, pilote et expert en aviation. Merci, Jean.
Bonne journée, Bernard.
Bonne journée. Luc Lavoie s'amène avec le bon coup ou est-ce le mauvais coup? On verra dans un instant.